t'attaches à ton lit. Tu es dans ton délire. Tu ne peux plus agir. C'est cela la médecine. Les couloirs trop blancs. Bois ton médicament. Tu es dans quatre murs. Des pilules, des piqûres. Ça va durer des mois. La folie comme seule loi. Il faudra que ton angoisse. La solution à cœur, c'est ça la médecine. Je veux la guillotine. C'est ça la médecine. Je veux la guillotine. C'est ça la médecine.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste. Et c'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie, aujourd'hui avec André Bitton du CRPA, le Cercle de Réflexion et de Proposition d'Action sur la Psychiatrie, association défendant les droits des personnes psychiatrisées. Bonjour André.
Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, donc, on va revenir sur un sujet qui reste quand même d'actualité, la question de la surmortalité des personnes atteintes de troubles psychiques, autrement dit des personnes psychiatrisées, rubriquées comme telles, de préférence d'ailleurs suivies au long cours et qui sont étiquetées comme telles et connues comme telles dans les services médicaux. Ainsi, pourquoi donc ? Ainsi, quand on veut voir de plus près, de façon pratico-pratique et pragmatique, le fait que nous autres sommes en quelque sorte un surplus d'humanité, car c'est ce qui se passe, on est considéré comme un surplus d'humanité, que nos vies ne valent rien ou pas grand-chose, alors on passe par là. Rappelez-vous, durant la pandémie, il y a eu un net problème qui s'est posé dès le premier confinement, à savoir un afflux, extrêmement grand, extrêmement important, de patients dans les services hospitaliers en direction des réanimations. Très rapidement, les urgentistes ont déclaré qu'il n'y avait pas assez de lits, que le turnover était très important et qu'ils étaient obligés de faire du filtrage. Et donc de refuser des gens en réanimation selon des critères XY. Et on s'est aperçu que parmi ces critères, il y avait évidemment la question des pathologies psychiatriques décompensées ou suivies, ou des gens suivis sur le très long cours, cette humanité rebut qui n'en vaut pas la peine et donc on n'en voit pas en réanimation. Parce que c'est carrément ce qui s'est posé. Ainsi, des voix se sont élevées rapidement, notamment à l'issue de la première période de confinement, donc vers le mois de mai 2020, notamment des centrales du handicap de l'UNAFAM, pour protester contre cet état de fait et une directive soit passée du ministère de la Santé, de sorte que le critère pathologie mentale ne soit pas un critère d'exclusion de l'admission en réanimation. Bien. Alors là-dessus, il n'y a pas que ce cas de figure, puisque c'est en gros les personnes sous handicap, sous mesure de handicap, qui étaient potentiellement visées par ce filtrage. Bon. Alors là-dessus, on a émis... il y a eu quand même des voix qui se sont élevées à la fin du printemps, à l'été 2020, pour dire « c'est absolument inadmissible, il y a un risque d'extermination molle, hein, finalement, sur les populations les plus fragiles, surtout quand on sait que sur Paris et la région parisienne, ce sont les départements les plus déshérités qui ont été frappés hein, par le Covid-19. » du fait du manque d'infrastructures, aussi de problèmes culturels. Hein. Bien. C'est la Seine-Saint-Denis hein, qui a été le département le plus frappé hein, par le Covid-19 en Ile-de-France. Donc la question s'est posée. Puis des études ont commencé à apparaître. D'abord des témoignages ont afflué, notamment les témoignages de médecins psychiatres et de parents ou de familles, disant, ou de personnel, disant qu'en effet, il n'avait pas été possible de faire admettre en réanimation des personnes chronique de suivi psychiatrique chronique. Et que donc la surmortalité est évidente là-dedans. Et donc on voit se réitérer toujours le même schéma. Moi j'ai été avisé très très tôt, hein, puisque j'ai fait un parcours sous allocation adulte handicapé des 88, hein, j'avais 35 ans. Toujours cela hein, qu'on connaît. Hein. En cas de guerre, en cas de crise, ce sont les handicapés qui passent d'abord au casse-pipe. Plaf, dégagé. Et là, parmi les handicapés, les plus pouilleux, les plus caniveaux du secteur du handicap, les malades mentaux, paf. En avant les malades mentaux, les pestiférés, les laissés pour compte, etc. Donc, en quelque sorte, les cadavres de l'histoire. Alors ainsi, ce compte-rendu d'une étude publiée récemment, et dont Mme Caroline Coq-Chaudor, journaliste à Mediapart, a fait état dans un article du 18 mai 2023, vaut d'être cité. Cet article du 18 mai 2023, sur Mediapart, Caroline Coq-Chaudor, je titrais « Les personnes atteintes de troubles psychiques ont été plus nombreuses à mourir du Covid et moins soigné. Le moins soigné a son importance. Ainsi, moi qui suis depuis très longtemps dans le militantisme, je puis dire, puisque je me souviens qu'il y a une trentaine d'années, j'ai dû faire un scandale monumental pour accéder à une prise en charge correcte. La santé, c'était pas pour moi. Moi, je dis couramment à des gens qui m'interpellent et qui sont du circuit intégré, normal, etc. Je leur dis, attendez, vous, si vous êtes mal, les soins, c'est pour vous. Nous, si on est mal, c'est du cachetonnage. Voilà. Vous êtes du bas tableau de la société, vous êtes en situation d'exclusion, vous êtes en situation prolétaire, sous-prolétaire, on va vous cachetonner. Les gens qui ont du galon, qui ont du réseau, etc., et qui ont de quoi payer, vous aurez des prises en charge, vous aurez des soins. Hein, d'accord. Donc, c'est pas qu'une inégalité de vitesse, c'est un peu plus que ça. Vous n'avez pas droit, en bas de tableau, en étant mal psychiatriquement, vous n'avez pas droit aux soins. Vous êtes juste dégradé, psychotropisé, médicamenté, c'est tout. C'est un véritable drame. Mais alors là, dans ces situations, c'est toujours plus grave. Donc, des chercheurs ont mis en évidence la surreprésentation des patients avec des antécédents psychiatriques parmi les morts du Covid entre février 2020 et août 2021. Les données hospitalières qu'ils ont exploitées révèlent aussi que ces malades ont eu moins de chances d'être réanimés. Donc ça, c'est le regard social qu'on nous porte. Le voilà, on en a la traduction. Ce regard, moi je dis, je fais partie de ceux qui soutiennent que ce regard est criminel. Le regard social qui nous est porté est un regard qui, au fond, là, ça se voit là, est criminel. Ou tout du moins, dont l'incidence est criminelle. Quand c'est pas direct, c'est indirect. Donc Michael Schwarzinger, médecin et chercheur en santé publique au CHU de Bordeaux, n'en revient pas. Il n'en revient pas, c'est parce que c'était un gogol, sans doute. Il a dû être déniaisé de par cette étude. Enfin, il n'est jamais trop tard pour être déniaisé. Parmi les facteurs de risque face au Covid, on a parlé de l'obésité, de l'hypertension, mais jamais des maladies psychiatriques. Or, la surreprésentation des malades est énorme, spectaculaire. On est passé à côté du problème. Et si il peut dire, ce médecin, qu'on est passé à côté du problème, c'est parce que nous, l'humanité des gens psychiatrisés ou ex-psychiatrisés, y compris la mienne, qui ne suit plus dans les files actives depuis très longtemps, notre humanité est mise en doute. Notre humanité même est inexistante, oui. Mise en doute. Et c'est comme ça qu'on arrive là. Quand des personnes sont bestialisées, déshumanisées, soustraites de l'humanité standard du regard, alors le pire peut advenir. Alors, il est le premier auteur d'une étude coécrite avec des chercheurs français et canadiens, publiée dans PLOS Médecine, qui a étudié la mortalité du Covid et l'accès aux soins intensifs des malades avec des antécédents psychiatriques en France. Ils ont pour cela exploité les données préalablement anonymisées du programme PMSI, un programme statistique, qui recueille tous les actes réalisés et facturés par les hôpitaux de France et renseigne grossièrement sur les causes des hospitalisations. Les chercheurs ont ainsi pu étudier les antécédents hospitaliers, de 465 000 malades du Covid hospitalisés pour un Covid entre le 24 février 2020 et le 28 août 2021, soit au cours des quatre premières vagues. Donc ça s'est étagé sur un an et demi. Cohorte nationale. Dans cette cohorte, les chercheurs ont pu isoler tous les malades qui ont été hospitalisés dans un service de psychiatrie au cours des 9 années précédentes pour démence, dépression, troubles de l'anxiété, schizophrénie, alcoolisme, addiction aux opioïdes, trisomie 21, difficultés d'apprentissage, etc. Ces malades avec des antécédents psychiatriques représentent un tiers, 150 000, du nombre total des malades hospitalisés pour un Covid. Sur un an et demi. Sur le nombre total des personnes hospitalisées pour un Covid, soit 150 000, le tiers avait des antécédents psychiatriques. le tiers. Donc c'est une population fragile. Quand on sait que le vécu psychiatrique, les médicaments psychiatriques, l'autodévalorisation, la dévalorisation d'ensemble et l'autodévalorisation amène à un effondrement même de la personne, et avec les médicaments en plus, la santé, elle tombe. Elle tombe. Pour être en suivi psychiatrique et préserver sa santé et, conserver sa bonne santé, mais c'est une lutte épaisse. D'abord parce qu'on doit refuser les traitements. Et donc, si l'on doit refuser les traitements avec atteinte psychiatrique, ça devient compliqué, parce qu'en France, on ne vous laisse pas faire. Bon. Donc, je répète, sur le nombre total de patients hospitalisés sur un an et demi dans cette étude, soit 150 000 patients pour Covid, le tiers avait des antécédents psychiatriques. Plus frappant encore, quasiment la moitié des personnes décédées du Covid avaient des antécédents psychiatriques. Poursuit le docteur Schwassinger, sur la cohorte totale, un peu plus de 100 000 patients, 22% sont morts dans les 120 jours suivant leur diagnostic de Covid, 22%. Parmi eux, quelques 50 000 patients avaient des antécédents psychiatriques. On a voulu creuser, explique le docteur Schwartzinger. Dans le détail, la surmortalité a surtout touché les patients avec des antécédents de démence, c'est-à-dire de la dégénérescence. Hein. La démence, c'est la dégénérescence. Parmi eux, 35,6% sont morts dans les 120 jours suivant leur diagnostic de Covid. De troubles de l'anxiété, 31,7%, de dépression, 39%, d'alcoolisme, 26,6%, et de schizophrénie, 23,5%. Ils ont oublié de côté les malades résistants. Mais bon, on leur suggérera à la prochaine vague de pandémie. Bien, triage. Les chercheurs se sont également penchés sur l'accès aux soins intensifs de ces malades. En psychiatrie, on sait ce que c'est les soins intensifs. Hein. Si l'isolement en contention, c'est... c'est l'USIP, l'UMAP. Les chercheurs sont également penchés sur l'accès aux soins intensifs de ces malades. Sur la cohorte totale des malades du Covid, 20% des patients ont eu accès à ces services de pointe sous forte tension pendant les vagues épidémiques. Mais seuls 5,7% des patients avec des antécédents de démence y ont eu accès. 11,6% des malades avec des antécédents de troubles anxieux. 12,4% pour ceux ayant souffert ou souffrant de dépression, 18% de schizophrénie. Donc on en déduit que, alors il valait mieux dans cette époque être rubriqué comme patient schizophrène. Parce qu'alors on avait plus de chances, comme dans la moyenne, d'avoir accès à des services de pointe. Et ça c'est la protection de l'UNAFAM. Protection des GEM et de l'UNAFAM. Parce que l'UNAFAM, avec les groupes d'entraide mutuelle et avec notamment l'AFNAPSI, ont mis la priorité depuis très longtemps sur la schizophrénie, sur les troubles schizophréniques. Donc je pense que c'est cela. Les chercheurs ont analysé les résultats en prenant en compte les critères de tri dans l'accès aux soins intensifs des malades du Covid. Par exemple, les patients très âgés atteints de démence n'y ont généralement pas eu accès. On a sacrifié les personnes très âgées, hein, ça c'était connu, il y a eu des protestations. Les réanimateurs, considérant qu'ils ne pouvaient pas bénéficier de ces méthodes de soins très invasives, dont les malades sortent très affaiblis d'un point de vue physique autant que psychique. De même, ils ont isolé les malades porteurs d'autres pathologies qui pouvaient les exclure de l'accès à la réanimation pour les mêmes raisons de fragilité, atteinte cardiaque, vasculaire, maladie rénale, sévère, cancer. Donc il y a eu une sélection des plus forts et des plus aptes. C'est une sélection.
Tout à fait.
Des plus forts, des plus aptes. Oui. Bon. Non, mais ça fait penser à ce qui s'est passé en plus soft au Brésil avec. Au Brésil. Oui, avec Bolsonaro. Bolsonaro, ce chef d'État, ben, s'est saisi de la pandémie pour mettre en avant un programme d'extermination des autochtones. Oui. Bon. Mais enfin, bon. Mais même en excluant tous ces critères, la surmortalité des malades avec des antécédents psychiatriques persiste, tout comme leur moindre accès aux soins intensifs. Les chercheurs parviennent ainsi à contredire les arguments généralement avancés pour justifier la surmortalité de ces malades. La surmortalité chez les patients atteints de troubles psychiatriques, elle est justifiée par la maladie mentale.
Oui.
à savoir un profil de vulnérabilité assez important, soit parce qu'ils ont un âge important pour ceux qui ont une démence, soit parce qu'ils ont des comorbidités importantes en raison de leur mode de vie, addiction, surpoids, qui les rendent plus fragiles au Covid. Or, notre étude montre que ces fragilités ne suffisent pas à expliquer la surmortalité qu'on observe. C'est-à-dire que c'est culturel, idéologique, c'est le regard qu'on porte, le regard social, et qui marque d'ailleurs que la condition de personne suivie pour trouble mental, de personne psychiatrisée, est une condition sociale.
Avant tout.
Donc discrimination et comorbidité. Or, ces phénomènes sont frappants et choquants en période de pandémie, car il s'agit de vie ou de mort, mais c'est tout au long de leur vie que ces patients ont moins accès aux soins. Alerte la chercheuse en santé publique Coralie Gandré. Elle est notamment l'autrice de la première étude française publiée en 2018 sur l'espérance de vie des personnes atteintes de troubles psychiques sévères. Les hommes meurent 16 ans plus jeunes et les femmes 13 ans plus jeunes qu'en population générale. Oui, je l'ai observé aussi dans mon environnement par rapport aux gens que j'ai connus suivis long cours en psychiatrie. Alors déjà en 2011, l'OMS rapportait que dans les pays occidentaux, entre 30 à 50% des personnes souffrant de troubles psychiatriques ne bénéficiaient d'aucun traitement. En 2023 et depuis les années 90, plusieurs études internationales font état également de stigmatisation intériorisée ou autodiscrimination chez les patients schizophrènes ou bipolaires, le plus souvent dû à la vision même que la société porte sur cette population minoritaire, amenant à une mise en retrait des services de santé. Mais c'est à telle enseigne que des gens qui ont de tels antécédents fuient tout dépistage en santé. Carrément. Et même s'ils sont suivis en psychiatrie, leur santé somatique, ça c'est la dégradation due au traitement hein, quand même. Mais ça, ils ne le pointent pas parce qu'ils veulent éviter cela. Leur santé somatique, celle de leur corps, est souvent négligée. Ils sont bien plus touchés par des maladies cardiovasculaires ou d'obésité, consomment plus de tabac et d'alcool, comme le rappelle cette étude qui listait en avril 2020 des comorbidités qui les rendent fragiles face au Covid. En 2015, la Fédération française de psychiatrie constatait une méconnaissance chez les médecins généralistes et spécialistes des intrications entre troubles psychiques et physiques. Même les incidences entre les différentes molécules, d'ailleurs. Leur côté psy fait obstacle à l'examen clinique. Examiner ces patients exige du temps. Or, une consultation chez un médecin généraliste dure 14 minutes. Confirme Bruno Caron, psychiatre au centre hospitalier Alpizère près de Grenoble. Ils prennent aussi de nombreux médicaments neuroleptiques antidépresseurs qui ont des effets secondaires, notamment cardiaques, qui dégradent encore leur état de santé. Ça, on note que cela, ils ne le mettent pas en avant.
Oui.
Bon, mais bon. Hein. Alors, pour Olivier Johan Boyau, chef du pôle anesthésie-réanimation au CHU de Bordeaux, Gironde, leurs médicaments pourraient même expliquer les réticences des médecins à les admettre en réanimation. Il peut y avoir des interactions avec les médicaments utilisés en réanimation, notamment les hypnotiques, et cela peut être à l'origine des complications. Le réanimateur le reconnaît volontiers dans une grande crise. Ce sont les populations les plus fragiles qui souffrent le plus. Je crois que dire que ce sont les populations fragiles qui souffrent le plus, c'est un euphémisme, puisqu'il faut dire que ce sont les populations les plus fragiles qui sont à risque de disparaître. Parce que la question, durant la pandémie, c'est pour de bon posée. Hein. D'abord, elle s'est posée localement de façon plus civilisée qu'ailleurs, mais mondialement, elle s'est posée. La pandémie a été mondiale. Donc, un caillou dans la chaussure. La fragilité de ces malades s'explique aussi par leur isolement. La maladie mentale attaque le lien social. Ces patients vivent souvent seuls, sont éloignés de leur famille. Il n'y a personne pour les défendre, explique le psychiatre Bruno Caron. Une solitude qui se déciderait jusque dans les couloirs des services hospitaliers débordés pendant la pandémie, abonde le docteur Schwarzinger. Quand vous êtes réanimateur et que vous avez deux patients, celui qui a de la famille pour le soutenir et celui qui n'en a pas et que vous n'avez qu'un respirateur, vous allez choisir malgré vous celui qui est entouré. Au-delà de la crise du Covid, ces malades sont négligés au quotidien, commençant par les urgences, qui gèrent un flux de patients de plus en plus important, manque de lits, rappelle le psychiatre Bruno Caron. Leur priorité est donc de faire sortir les patients. Ces patients agités, délirants, qui exigent du temps et de l'écoute, sont un caillou dans leurs chaussures. Ils sont discriminés parce qu'on ne sait pas où les caser. Caroline Gondré estime que ce sont des patients qui font peur aux soignants, car ils n'ont pas été formés ni sensibilisés à la maladie psychiatrique. À force de mettre les soignants dans des situations impossibles, ils finissent par ne plus être en capacité de respecter leurs valeurs eux-mêmes, explique le docteur Schwarzinger. Dans les conditions actuelles de paupérisation de l'hôpital, les soignants n'ont plus le temps de faire leur métier dans des conditions acceptables. Alors maintenant, quand on sait quel est l'accueil moyen standard dans nombre de services d'urgence, on ne se pose pas question, puisqu'il est noté, ça a été enquêté notamment dans des recommandations du contrôle général des privations de liberté, notamment sur le CHU de Saint-Étienne, que dans les services d'urgence, on sait très bien quoi faire pour les patients à profil psychiatrique. On les met dans un coin à part, on les ligote, etc., et on leur trouve un lit en mesure de périliminon. Flag. Ça plaf. Et on les garde pendant, enfin, sous quasiment des mesures connexes de la torture. Donc, non, mais l'inhumanité règne. C'est absolument scandaleux. Donc, c'est bien que ça sorte.
Oui.
Pause.
On va faire une pause avec HK. Oui. HK, toi et moi, ma liberté.
Ce soir la ville est endormie, les humains ont la tête ailleurs. Sais-tu que pour toi mon ami, je chanterai pendant des heures. J'ouvrirai grand les fenêtres pour contempler les joies du ciel. Et je te verrai apparaître comme un éclair, une étincelle. C'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter pour une nouvelle danse. Toi et moi, ma liberté. Derrière les murs et les façades et les discours de circonstance, quelques imprudences s'évadent, s'affranchissant des convenances. Et les voilà qui nous rejoignent comme dans un grand bal populaire. Sens-tu nos peines qui s'éloignent? Demain sera plus beau qu'hier. C'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter pour une nouvelle danse, toi et moi, ma liberté. Amis, les arbres sont en fleurs, et nous revoilà désormais, comme des frères, comme des sœurs, et les soldats sont désarmés. Nous dansons pieds nus sur la terre, nous tanguons sur le toit du monde. Nos âmes qui voguent au grand air sont sur la même longueur d'onde. C'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter pour une nouvelle danse. Toi et moi, ma liberté.
C'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter pour une nouvelle danse. Toi et moi, ma liberté.
C'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter pour une nouvelle danse. Toi et moi, ma liberté.
Radio Libertaire, toujours l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie avec André Bitton du CRPA. Et donc on parle toujours de la coercition psychiatrique et en l'occurrence de la mortalité.
Surmortalité.
La surmortalité des patients en psychiatrie.
Alors, en l'espèce, il y a eu une étude publiée par Elena Chamorro, qui est une prof d'espagnol en université, qui, suite à un accident, est devenue hémiplégique et donc est handicapée sur chaise. Et donc, mais elle émet des tribunes dans Mediapart sur la question du handicap, qui sont assez par là. Liba, elle secoue le cocotier, quoi. Donc, alors là, en l'espèce, l'étude critique qu'elle avait fait publier en tant qu'universitaire et date du mois d'avril 2020 à l'EHESS, déconstruction l'école des hautes études en sciences sociales, déconstruction et reconstruction du handicap en temps de coronavirus. Alors, l'annonce de la décision d'un confinement au plan national par le président de la République le 16 mars 20 a provoqué la réaction de nombreux activistes handicapés. Cette situation sans précédent qui s'est traduite par l'impossibilité pour l'ensemble de la population d'accéder aux différents espaces sociaux habituels leur est apparue comme une occasion de mettre en exergue la dimension relative, socialement construite, du handicap. Certains ont même avancé que cette expérience pouvait être le point d'inflexion ouvrant la voie à une ressignification de notions comme la dépendance ou la qualité de vie. Bon, donc, telles qu'elles ont été portées par le champ de recherche. Bon, donc d'autres qui proposent une lecture politique, sociale et culturelle du handicap comme restriction et désavantage imposés sur les personnes porteuses de déficience par un environnement inadapté. C'est l'environnement qui est inadapté. Un point, c'est tout. Je ne sais pas ce que ça donne. Et l'occasion de porter dans l'expérience commune et quotidienne des discours articulés essentiellement dans la sphère universitaire et les milieux militants. Oui, enfin, ça, c'est en gros toujours la même chose. Vous restez confiné dans le milieu universitaire militant, ça va. En société ordinaire, c'est pas la peine. Allez, hop, circulez. Cependant, ce mouvement de déconstruction du handicap semble se heurter à la force d'inertie d'institutions que l'onde de choc de l'épidémie ne paraît pas transformer radicalement. Enfin, on euphémise. Je crois que la tournure est pas mal. Ce mouvement de déconstruction du handicap se heurte à la force d'inertie d'institutions que l'onde de choc de l'épidémie ne paraît pas transformer rapidement. C'est bien dit et puis c'est pas mal. Très vite, diverses mesures annoncées par le gouvernement ont montré que la population handicapée restait à la marge de la prise en charge générale. Les attestations officielles de déplacement dérogatoire émises suite au décret du 16 mars étaient ainsi inaccessibles. Ce sont des associations qui se sont chargées de produire des versions adaptées pour les personnes malvoyantes ou aveugles, ou pour faciles à lire et à comprendre. Le nouveau formulaire émis après le décret du 23 mars est tout de même disponible dans différents formats sur le site du ministère l'intérieur. Déplacement, donc déplacement dérogatoire, etc. Mais toujours pas en facile à lire et à comprendre. Donc, et ce sont les professionnels de l'accessibilité culturelle qui ont pris en charge des explications en langue des signes française pour les personnes sourdes qui ont un accès difficile au français et en l'absence de mesures de prévention. Au problème d'accessibilité des mesures de prévention dont nous n'avons donné que quelques exemples, s'ajoute une construction sociale de la fragilité. La vulnérabilité n'est pas une donnée biologique pure. Comme l'ont pointé certains journalistes, les drames dans les EHPAD sont à relier au manque de moyens de protection du personnel et à la difficulté de respecter les mesures de distanciation sociale. Les personnes handicapées résidant en institution qui connaissent un sort semblable sont en revanche peu évoquées. C'est-à-dire qu'on a parlé des EHPAD, mais on n'a pas parlé des instituts de placement des personnes handicapées. Les femmes, les foyers d'accueil médicalisés, aussi les ESAT et les autres. Enfin, les ESAT sont des unités de production, c'est des unités de travail. Mais elles sont souvent, les ESAT sont souvent déployées à l'intérieur même d'institutions de placement. Donc ces deux catégories de population qui seront donc davantage exposées au virus en raison de leur vulnérabilité accrue par l'organisation sociale et institutionnelle risquent d'être dirigées vers des services qui ne les prendront pas prioritairement en charge ou qui les refuseront en raison de leurs chances de survie estimées plus basses. Et ou parce que les décisions sont guidées par des critères hiérarchisant les vies et mettant les vies handicapées en bas de l'échelle. Et en bas de l'échelle des handicapés, les malades mentaux. Parce que bon, il y a une hiérarchie du handicap hein, aussi. Il y a des handicaps nobles et d'autres qui ne le sont pas. En effet, dans le cadre d'une épidémie qui submerge les ressources de l'hôpital public, bien, donc les restrictions amènent à faire un choix pour lesquels qui sont réénoncés, dans lesquels sont réénoncées les hiérarchies traditionnelles. Les hiérarchies traditionnelles. Donc, en mars 2020, un document de référence rédigé par un comité d'experts a été remis au ministère de la Santé pour guider les médecins dans le tri de patients qui semblent se profiler. Donc, d'accord, le tri est inadmissible, mais comme on est obligé, donc on va vous faire une grille. Vous allez suivre un protocole. Bon. Donc, cette grille a été élaborée par les médecins et chefs de service anesthésistes réanimateurs. Ces deux documents donnent des orientations pour guider l'admission en réanimation dans un contexte d'engorgement des capacités d'accueil. Les décisions doivent être prises au cas par cas en combinant différents facteurs tels que la volonté du patient, sa gravité clinique et l'évaluation de son état antérieur. C'est toujours le tri entre les aptes et les inaptes, les forts et les faibles. Ces deux documents s'appuient sur un indicateur, l'échelle de fragilité clinique ou score de fragilité clinique, qui inclut des critères non seulement de maladie, mais aussi de limitations fonctionnelles, mobilité, autonomie dans les actes de la vie quotidienne. Le document remis aux ARS précise d'ailleurs que ce score de fragilité peut être remplacé ou combiné avec l'indicateur de performance de l'OMS. Ces indicateurs sont des échelles d'évaluation de la dépendance dans la vie quotidienne. On peut s'interroger sur la présence de critères qui n'ont en principe aucun lien avec les chances de survie, mais qui relèvent plutôt de la conception de la qualité de vie selon l'approche du modèle médical du handicap ou qui répondent à des critères de productivité selon les standards dominants. Les vies ne s'ajustant pas à ces standards, les vies qui ne s'ajustent pas à ces standards semblent dotées de moins de valeur et ne devraient pas être sauvées en priorité. Je pense que tout est dit. Ainsi, nous pouvons discerner la succession de deux mouvements dans l'ordre des discours autour du handicap et de l'épidémie, qui recouvre aussi la succession de deux lectures du traitement politique du handicap en temps de crise, un mouvement d'interpellation de la part des concernés dans les premiers jours du confinement face à une situation susceptible de remettre en cause de manière inédite les lectures essentialistes du handicap, cédant le pas à un constat pessimiste face à la réponse politique et sociale de la gestion de la crise. Ces temps successifs montrent comment le handicap est une construction sociale et politique qui peut être souvent difficilement déconstruite, mais qui aussi bien souvent est reconstruite avec force, avec encore plus de force en temps de crise, où les inégalités au sens large semblent s'accentuer davantage. L'immense avantage de ces périodes de crise, c'est que les choses se disent crûment.
Oui.
De façon cruelle, même tout à fait cruelle. Et là, pour revenir au terrain psychiatrique, les ravages de ce corporatisme de gauche français qui ont amené depuis les années 60-70 à un sous-développement des mouvements de personnes psychiatrisées, au fait que ces mouvements ont été autorisés au développement de façon limitée, organisée de façon contrôlée par les gros intérêts en place, les autorités sanitaires, bien, et qu'il a été refusé à nos mouvements de pouvoir s'épanouir en autonomie, de pouvoir se développer en autonomie. Et bien là, dans ces périodes de crise, on en voit les conséquences. On en voit clairement les conséquences. Voilà. Donc je pense que on a là la démonstration que dans notre schéma organisationnel sanitaire français et dans la conception française du handicap, en traduction concrète, il y a un véritable problème. Et il y a un véritable problème en particulier sur les personnes psychiatrisées long cours. Puisque, je reprends toujours ce parallèle, la période de la pandémie a permis de soulever la question des EHPAD, hein. La question des personnes âgées. Le scandale des EHPAD, il a fonctionné. On notera que le scandale soulevé par Thibault Petit sur Handicap à vendre, sur les ESAT, sur la surexploitation de tendance esclavagiste, hein, des personnes handicapées placées en établissement d'aide par le travail, a été borné et reste étouffé. Et là, on a des gros intérêts. Toujours, hein, je reviens toujours là-dessus, depuis 2002, chaque élection présidentielle, les candidats, plus forcément de droite, hein, mais des candidats de gouvernement, vont dire « on va hausser l'âge ». Ils vont dire, je me rappelle de cette pétition de 2002 notamment, et 2007 également, « on ouvrira des places en ESAT ». Bien. Donc il y a pour de bon une politique du handicap et c'est pour de bon une politique de parcage. En tout cas, moi je ne m'étonne pas au vu de tout cela que quand tout cela, c'est même le faisceau de raisons pour lesquelles j'ai claqué la porte en 2019-2020 en disant « moi je refuse de collaborer, je vais continuer à collaborer avec des gens pareils, c'est juste pas possible,
ouais, oui.
C'est juste pas possible ». Donc on voit l'immense cruauté de ce système qui renvoie aux marges de la société sous couvert psychiatrique des tas de gens qui sont d'ores et déjà exclus ou qu'on bascule dans l'exclusion et qu'après on déshumanise pan après pan. Et un beau jour, un état de crise arrive, toute cette population, des millions de personnes sont correctes pour être sacrifiées.
Oui.
C'est inadmissible. Oui. C'est vraiment inadmissible. Pause, merci.
Alors, on fait une deuxième pause avec... La poulpe.
Me laver les mains une première fois, me laver les mains une seconde fois, me laver les mains 26 fois. Et fermer le robinet, et vérifier une première fois, et vérifier 26 fois. Et descendre les escaliers, sauter les marches, je le dois, sans toucher la rampe saleté, sinon je dois tout recommencer. Et recompter mes grains de beauté, du plus petit au plus gros. J'en ai 26 au total, 11 petits, 7 moyens et 8 gros. Une porte chez moi ne s'ouvre pas comme ça. Je dois toucher la poignée 8 fois. Une paire de chaussures chez moi ne se range pas comme ça. Alignement parfaitement droit. On me dit me laver les mains une première fois, me laver les mains une seconde fois, me laver les mains 26 fois. Et fermer le robinet, et vérifier une première fois, et vérifier 26 fois. Toujours compter l'heure électronique, en additionner chaque chiffre, 14h30 par exemple, 1 plus 4 ça fait 5, 1 plus 3 ça fait 8. Je dois mâcher les aliments, les recracher sur ma main gauche, inspecter la drôle de bouillie. Je suis bannie des restaurants. La vaisselle chez moi ne se fait pas comme ça. Je dois laver les couteaux 8 fois. Et le linge chez moi ne s'étend pas comme ça. Alignement parfaitement droit, 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 droit.
Radio Libertaire, toujours l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie, avec André Bitton de l'association CRPA, le Cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie. Et maintenant, on va évoquer le crime du CHU de Reims.
Oui, donc, alors un fait divers sanglant a eu cours le 22 mai dernier, mettant en cause une personne de 59 ans, longuement suivie en psychiatrie depuis 1985. C'est quelqu'un né en gros vers 1964, donc très rapidement, il a été psychiatrisé. Et c'est quelqu'un qui s'est chroniquement plaint de maltraitance. Il avait déjà commis un premier passage à l'acte sans une agression sur une infirmière, rescapé d'ailleurs en 2017, pour laquelle il était en cours d'instruction et en cours d'instruction médico-légale. Et l'audience de comparution à la cour d'appel d'Aix-en-Provence en chambre de l'instruction devait avoir lieu le 26. Donc finalement, c'était quelqu'un qui avait été placé en ESAT et qui se plaignait de tous les côtés, qui semble-t-il n'a jamais été entendu dans ses plaintes concernant ses hospitalisations ou sa prise en charge ou son exploitation au travail en ESAT. Donc les faits sont les suivants, ça se passe au CHU de Reims. Alors que les secteurs de psychiatrie de Reims sont en cours de restructuration et ont été réunis sous l'égide du centre hospitalier universitaire avec une guerre de tranchées entre le service Antonin Artaud qui a été dirigé très longuement, qui a été fondé d'ailleurs par le docteur Patrick Chemla, opposant au technocratisme psychiatrique et fondateur du collectif des 39, chef d'école de courant de psychothérapie institutionnelle, et le principal chef de pôle suivant ce patient criminel dont on a connu le nom depuis quelques jours, Franck Freiburger. Donc les faits, c'est le 22 mai, un homme au lourd passé psychiatrique entre dans le CHU de Reims et poignarde mortellement Karen Mézino, infirmière de 37 ans, et blesse aussi grièvement une secrétaire médicale. L'infirmière décède le lendemain. Alors l'article dont je donne lecture est un article de l'Union de Reims, un journal départemental du 27 mai. Le 24 mai, Franck Freiburger a expliqué avoir voulu tuer une blouse blanche par haine des blouses blanches, haine du corps médical et des paramédicaux. Ma thèse, c'est que, enfin, c'est ce que je suis pas le seul à le penser, c'est que le défaut de démocratie sanitaire et du fait que les droits des patients sont ignorés sur la plupart des endroits dans la psychiatrie française amène à ce genre de choses. Mais bon, donc il a été mis en examen pour assassinat, tentative d'assassinat, et écroué dans une unité médico-carcérale. Patrick Chemla, fondateur du centre Antonin Artaud à Reims et membre du Conseil national de l'Union syndicale de la psychiatrie, est interviewé dans cet article. Alors, ces derniers jours, beaucoup ont rappelé le manque de moyens en psychiatrie. Qu'en pensez-vous? En matière psychique, comme pour tout ce qui concerne l'humain, il n'y a jamais un seul lien de cause à effet. Ce n'est pas parce qu'on a eu des parents violents qu'on aura tel comportement à l'âge adulte. Il ne faut pas mettre un trait d'égalité entre un crime fou commis par un homme très délirant, déjà violent, et le manque de psychiatres en France. Je voudrais passer un message. Au centre Artaud, beaucoup de patients étaient très émus au lendemain matin de ce qui était arrivé. Les personnels soignants se sont sans doute identifiés à la victime, mais les patients aussi. Certains aussi craignaient que cette histoire leur retombe dessus. Vague de stigmatisation. C'est-à-dire, un crime fou a lieu en moyenne tous les 4-5 ans en France. À chaque fois, un constat est rappelé et vite oublié. En proportion, moins de crimes et délits sont commis par les malades mentaux que par le reste de la population. En revanche, ils subissent 10 fois plus de crimes et délits. La majorité des patients psychiatriques est très vulnérable, mais certains peuvent être très dangereux, surtout si leurs hallucinations ne sont soignées qu'avec des médicaments. Et ça, j'insiste. Surtout si leurs hallucinations ne sont soignées qu'avec des médicaments. Et moi, c'est la thèse que je tiens depuis très longtemps. J'ai soutenu dans les travaux parlementaires. Quand on est sur CMP, qu'on se contente de vous médiquer, on ne vous soigne pas, on vous abandonne. C'est une modalité du refus de soins. Quel est justement le rapport aux médicaments? Souvent ambivalent. Les stratégies de dissimulation sont fréquentes, notamment chez les schizophrènes, pour qui le médicament est souvent perçu comme un poison qui rend fou. On peut passer beaucoup de temps à négocier avec eux, d'où l'importance que le patient puisse compter sur un tissu relationnel. ce qui n'est souvent plus le cas. Les médicaments peuvent réduire les angoisses, les délires et aider à restaurer un espace de communication, mais s'il suffisait à guérir la psychose, on pourrait tous aller à la pêche à la ligne. Ce qui guérit, ce n'est pas seulement les médicaments ou la psychothérapie, mais bien une ambiance psychothérapique avec des milieux de soins qui puissent être aussi des milieux de vie, tout ce qui permet des capacités de resocialisation. Les avis divergents entre mandataires judiciaires et psychiatres sont-ils fréquents ? Oui, dès que quelqu'un est délirant, dissocié, il peut provoquer cela. Il va être bien devant une personne, puis très mal devant une autre. Face à un interlocuteur, il peut se sentir dans un espace de sécurité où les voix et hallucinations s'arrêtent, et face à un autre, brusquement, ne plus l'être. C'est un effet de seuil. Le ministre de la Santé a annoncé les moyens supplémentaires pour améliorer la sécurité. Qu'en pensez-vous ? C'est une politique seulement sécuritaire. Au centre Artaud, on a déjà voulu nous imposer des systèmes d'alarme, des caméras, etc. Nous avions menacé de faire grève. Le directeur de l'époque a fait en sorte que nous n'en ayons pas.
Oui, alors... Donc, suite dans quelques instants de l'interview donc, de Patrick... le psychiatre Patrick Chemla du CHU donc psychiatre et membre du Conseil national de l'Union syndicale de la psychiatrie et exerçant lui-même à Reims, enfin dans les environs. Alors en attendant le retour d'André, Je vous propose une petite plage musicale à nouveau que nous essaierons de choisir courte.
Une chanson à propos de la maniaco-dépression. Qui est fou ? Qui est normal ? Qui décide ?
C'est un asile de fous ici. Je ne suis pas fou.
En fait, il y a très peu de gens qui sont vraiment fous ici. Je dis pas que toi, tu l'es pas. Je dirais même que t'as l'air carrément déjanté. Mais c'est pas pour ça que t'es ici. Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça que t'es ici. C'est uniquement à cause du système.
Le système qui t'a créé pour travailler. Marchez ou pas, et si tu vas pas droit, tu te feras juger.
Mais je n'en fais qu'à ma tête, car je n'écoute pas.
plus vos discours psychotiques. Je suis un psycho, maniaco-dépressif. Plus je pense au système, plus je déprime. Si ça continue, il va me juger et m'enfermer dans une camisole chimique.
On reprend l'émission en direct.
Donc, le ministre de la Santé a annoncé des moyens supplémentaires pour améliorer la sécurité. Qu'en pensez-vous ? C'est une politique seulement sécuritaire. Au centre Artaud, on a déjà voulu nous imposer des systèmes d'alarme, des caméras, etc. Nous avions menacé de faire grève. Le directeur de l'époque a fait en sorte que nous n'en ayons pas. Pourquoi refuser le tel dispositif ? Ça renforcerait le sentiment d'insécurité, donné aux patients l'idée que les soignants sont forcément sur leur garde. Le psychiatre qui suivait Franck Frey-Burger l'a vu 5 mois au cours des 6 derniers mois. Qu'en pensez-vous ? Je ne peux pas juger du travail d'une autre équipe. Il y a une obligation de confraternité chez les médecins qui gèle les critiques. Sur le plan légal, ça paraît irréprochable et s'il l'avait vu chaque semaine ou chaque jour, le même crime aurait pu avoir lieu. Certains patients développent des stratégies de dissimulation très élaborées, le plus souvent en vue d'une tentative de suicide. Chez un schizophrène, ça se produit d'ailleurs souvent quand il va mieux et réalise sa pathologie. Le suicide chez les patients aussi, ça c'est exact. Soudain, il se voit avec une lucidité redoutable. Des patients s'organisent en collectif, créent, militent, se soutiennent, mais d'autres voient les choses très tristement. Dire que la psychiatrie est le parent pauvre de la médecine, c'est cliché, mais c'est bien vrai. Au vu de votre expérience, le suivi de ce patient était-il suffisant ? Vous savez, il m'arrive de voir des patients tous les 3 mois. On travaille avec les moyens qu'on a. Une fois par mois, c'est souvent le rythme. Oui, avant d'être à la retraite à l'automne, je suis passé à mi-temps et j'ai encore 146 patients. 146 patients, c'est beaucoup et même trop. Non, oui, mais quel est l'autre choix ? Les abandonner ? J'ai arrêté de prendre de nouveaux patients depuis 2 ans. Depuis mes débuts, la demande a été décuplée. À la fin des années 70, les gens n'osaient pas venir et aujourd'hui, on refuse des demandes de partout. Encore ici, nous avons encore le nombre suffisant de psychiatres, mais il faut bien comprendre que même avec des effectifs au complet, le risque zéro ne peut pas exister. Nous sommes tous assommés par cette histoire. C'est vraiment terrible de penser à la famille de cette femme, à son mari, à ses enfants, mais il ne faut pas laisser croire que nous aurions les moyens de prévoir l'imprévisible, ce serait obscène. Mais si le risque zéro n'existe pas, certains y verront un argument pour renforcer la sécurité. Un portique ne changera rien sur le fait que quelqu'un y rende à la rue courir après n'importe qui avec un couteau. Et là, que proposera-t-on ? Des portiques au coin de chaque rue ? Après un tel drame, il y a comme d'habitude une réaction immédiate qui est d'ordre émotionnel. Donc on va mettre de l'argent pour installer des portiques, mais la crise, elle, va rester. Les démissions de psychiatres et d'infirmiers vont continuer. Et ceux qui restent seront encore plus fatigués. Ceux qui manque, ce sont des équipes formées. Depuis 30 ans, gauche et droite ont voulu supprimer des lits, pensant qu'on pouvait s'en passer et que les médicaments résoudront tout. C'est vrai. Hein. Beaucoup de non-initiés se sont posé la question pourquoi Franck Frey-Burger n'était-il pas enfermé ? À peu près 1% de la population est schizophrène. En France, pays de 70 millions d'habitants, il faudrait donc 70 000 lits qui seraient toujours occupés. Est-ce que ce serait raisonnable ? La fonction de la psychiatrie est de soigner, pas d'enfermer. Nous ne parvenons pas à réduire la fréquence des crimes schizophréniques, mais arrive-t-on à réduire les autres crimes ? Encore moins. Les prisons débordent comme jamais et sont remplies de fous qui ne devraient pas y être. On fait des rapports depuis 30 ans sur le sujet, mais tout continue. Dire que la psychiatrie est le parent pauvre de la médecine, c'est presque cliché, mais c'est toujours vrai. Non, mais moi je pense très sincèrement que il y a un problème sur le fait qu'on ne favorise pas en France, pour des raisons évidentes, l'organisation des patients eux-mêmes en vue de leur autonomie et de la défense de leurs droits. Bien. D'une part. D'autre part, il est exact que les personnes suivies psychiatrisées long cours ne s'organisent pas, sauf s'ils ont des feux verts extrêmement puissants et qu'il est favorisé l'individuation, le rapport de soi à l'équipe et des demandes de surprestataires. Donc la responsabilité sociale, la responsabilité civique et citoyenne n'y est pas, mais tout est fait pour qu'elle n'y soit pas. tout est fait pour qu'elle n'y soit pas. Alors, on a là un des nœuds de ce drame et du fait qu'à tout, à tous les coups, au CHU de Reims, la représentation des patients, la question des droits des malades, une question protocolisée, point, et qui n'a pas lieu. À tous les coups, les protestations de ce patient ont été évacuées et mises sur le chef de sa maladie.
Alors nous rappelons quand même que, évidemment, nous n'excusons pas son geste et que...
Naturellement.
Hein, voilà.
Nous condamnons, moi, toutes
nous
les façons...
Nous ne faisons pas d'angélisme.
Moi, toutes les façons, mon principe est le suivant. Il est hors de question de soutenir des gens qui se ramènent dans nos réseaux et qui disent qu'ils veulent régler des comptes et utiliser la violence.
Oui.
Ces gens-là vont se faire voir. Nous, on appelle à l'usage du droit et de l'écrit, donc du témoignage. Bien. Et par ailleurs, moi, pour ma part, pour avoir développé une forte propension autodidacte et être grand amateur d'encyclopédie, je rejette ce genre de personnes. Bon. Donc ça, de toutes les façons, c'est réglé. Mais il n'en reste pas moins que, puisqu'il y a une judiciarisation des internements, une judiciarisation de la procédure médico-légale, de toutes les façons, c'est une procédure médico-légale pénale, la défense de ce genre de personnes doit y être.
Oui, oui.
Point, hein. Le droit à la défense est...
Ne serait-ce que pour justement déterminer aussi des causes en amont par rapport au fonctionnement de l'institution.
Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Et d'autre part, il ne me paraît pas possible de chanter dans cette affaire le fait que ce patient a dit très clairement dans sa motivation qu'il voulait se venger de maltraitance. Donc de quoi voulait-il se venger? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il n'est pas question que cet homme ressorte, ce n'est pas la question. La question, c'est qu'on y voit clair.
Oui, ça nous rappelle aussi aux nombreux faits divers auxquels nous sommes confrontés, enfin, que nous pouvons lire dans la presse, et qui sont explicités, dont on explique finalement la forme, dans la forme des conséquences, mais dont on ne sait pas quelle cause, en fait, et que bien souvent, ce qui se passe en amont de ces événements qui sont relatés dans
côté. C'est-à-dire, ça, c'est quand on pose des alertes, moi, c'est mon cas, j'ai des alertes sur Google, sur des mots-clés, sur la psychiatrie, et je reçois les alertes pour les faits divers plus ou moins sanglants à travers la France ou à l'étranger, sur la francophonie, Belgique, Afrique noire, etc., au Québec. Je dois dire que c'est frappant. Les médias traitent le fait divers en tant que tel comme fait divers inexpliqué.
Voilà.
Voilà. Et donc, non, là, c'est pas possible. Pour une fois, une personne est passée à l'acte en disant qu'elle entendait se venger de la maltraitance subie en institution. Mais c'est pas possible de faire l'impasse là-dessus, puisque des centaines de milliers de personnes subissent une maltraitance absolument ahurissante dans les institutions de placement, qu'elles soient purement et simplement hospitalières, cliniques, médico-sociales. C'est des centaines de milliers de personnes. Moi, j'ai eu des témoignages absolument accablants sur les foyers d'accueil médicalisés.
Oui.
C'est accablant, enfin. Je dis et je soutiens que lorsqu'on connaît ce qui se passe en moyenne dans les ESAT, dans des services de psychiatrie relégués où les gens sont chronicisés, je dis que c'est digne de la case de l'oncle Tom, je dis que c'est digne du 19e siècle et du féodalisme le plus cru. Quelle est la définition du féodalisme? C'est une succession de suzerainetés dans lesquelles un droit absolu s'exerce. Bien. Donc, si l'on a égard à cela, on ne peut pas évacuer la question de la maltraitance institutionnelle dans cette affaire. Cet homme est un monstre social, d'accord, il est passé aux actes, il s'intègre dans la galerie des monstres. Mais il y a cette maltraitance institutionnelle dénoncée rapport après rapport par le contrôle général des lieux de privation de liberté. Cette maltraitance et ces abus qui ont prêté lieu toutes ces dernières décennies à un épanouissement systématique du contentieux, bien, au fait que nous qui avons pu percer en exigeant du droit, on a été blackouté, tapé de la tatane, mis de côté en disant oui, d'accord, oui, vous avez percé, maintenant nous c'est du sérieux, les professionnels, vous vous dégagez. Mm-hmm. Bien, on peut pas l'ignorer. On peut pas ignorer le regard immédiatement déshumanisant qui nous est porté. Ça, c'est pas possible. Donc, au moins, cette affaire serve de signal d'alarme et qu'à un moment donné, puisque cet homme ne sortira jamais, qu'à un moment donné, l'on puisse dire en contrepoint de cette affaire, parce que les pouvoirs publics vont s'en servir, les médias matraquent, des chasses aux fous vont être organisées, des gens qui sont des innocents vont en prendre plein la figure parce qu'ils ont une actualité ou un passé psychiatrique. Moi, ouais, c'est pas mon cas. Hein. Moi, je suis garanti. Il y a qu'à voir ce qui s'est passé là où j'habite, paf, en avant, hein, tu vois. Mais des tas de gens vont prendre plein la figure, comme d'habitude, avec ce genre de faits divers. Donc ça suffit, à la fin. On doit tirer un signal d'alarme.
Eh bien, ce sera sur ces conclusions que l'émission d'aujourd'hui va se terminer. Merci, André. Et nous vous disons à la prochaine fois.
Voilà. Et mes excuses pour la fausse route, les fausses nasales, et la faute à la vieillesse.
Et tous les petits inconvénients techniques que nous avons pu avoir aujourd'hui. Au revoir.